Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir la parole de l'Éternel afin de lire les trois textes de la prédication. Le premier, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, au chapitre 25, des versets 5 à 10. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère défunt, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Elle fera une déclaration en ces termes « Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère ». Et le nom dont on l'appellera en Israël sera la maison du déchaussé. Ensuite, un deuxième texte dans l'Épître aux Corinthiens, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, des versets 35 à 49. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé. Peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Semés méprisables, on ressuscite glorieux. Semés plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et le texte principal de la prédication tiré de l'évangile de Marc, au chapitre 12, des versets 18 à 27. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui, Jésus-Christ, et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit, près du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande.
Ce qui n'a pas de vie ne peut pas grandir. Vous avez déjà vu une plante morte, elle ne grandit plus. Eh bien, de même pour nous, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas grandir dans la foi. Nous croyons au Saint-Esprit et nous comptons sur son œuvre ce matin pour saisir ce que sa parole veut nous enseigner. Quelle joie de pouvoir parler de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de ce Seigneur et Sauveur qui est venu sur terre pour nous pardonner, pour nous purifier. Et quatre personnes ont mis par écrit, en fait, les éléments principaux du ministère de Jésus. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est l'évangile selon Marc, que j'aime appeler le journal de Pierre, écrit par Marc, qui nous guidera ce matin. Et nous le lisons petit à petit dans son ensemble. Marc n'a sûrement pas écrit sous la dictée de Pierre, mais a été fortement influencé par tout ce qu'il a entendu de Pierre, qui était un témoin oculaire et privilégié du ministère de Jésus. Alors dans ce récit historique et vrai que nous avons entre nos mains, et qui a été préservé jusqu'ici par celui qui donne la vie, nous sommes dans la dernière semaine de Jésus avant qu'il meure donc sur la croix. Dimanche, Jésus est entré dans la ville avec un ânon, comme un roi acclamé par tout le peuple. Lundi, Jésus a mis de l'ordre dans le temple qui était géré principalement par les Sadducéens, ce groupe dont faisait partie les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui. Mardi, Jésus est à nouveau dans le temple. Et là, plusieurs juifs se réunissent pour le piéger. Nous avons vu la dernière fois les pharisiens, qui sont en fait les religieux fondamentalistes. Donc fondamentalistes, ça veut dire qui aiment montrer qu'ils sont religieux, qui suivent des lois sans en avoir l'esprit. Qui en fait ajoutaient beaucoup de lois. Et selon eux, rester le plus pur possible, c'est le parti... J'avais dit la dernière fois que j'ai fait un peu de politique, c'est un peu le parti de droite, si vous voulez. Et nous avons aussi rencontré les Hérodiens, qui étaient favorables au gouvernement romain, désireux d'avoir le contrôle sur tout, dépensant l'argent et sans vraiment grande morale. On avait parlé du parti de gauche la dernière fois. Et nous allons rencontrer les Sadducéens aujourd'hui, composés des prêtres et des souverains sacrificateurs. Nous parlerons de ce qui les caractérise dans notre premier point. Le Nouveau Testament parle encore des Zélotes, qui étaient un parti nationaliste révolutionnaire prêt à utiliser les armes pour renverser le gouvernement romain. Donc ces groupes, à part les Zélotes, mais ces trois autres groupes, veulent piéger Jésus parce qu'ils ont un intérêt dans le temple et Jésus vient de faire de l'ordre et a fait qu'ils ne peuvent plus faire autant d'argent qu'avant. Et nous avons parlé de la dernière fois d'un sujet que Jésus a abordé grâce à une question piège qui avait été posée à Jésus. C'est fabuleux. Jésus, il reçoit une question piège et hop, il le retourne par un enseignement fondamental qu'il donne à ses disciples et à ceux qui l'écoutent. Et la dernière fois, en fait, nous avons parlé de la relation à l'autorité. Jésus a posé le fondement de base pour notre attitude face à toute autorité. Et si vous ne vous souvenez pas, eh bien la chose qu'il faut retenir pour notre relation à l'autorité, c'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est la clé. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre enseignement fondamental en trois volets, comme je vous l'avais annoncé. C'est en fait la compréhension des Écritures, la puissance de Dieu et la vie. C'est les trois éléments que nous verrons aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons du moteur de nos vies. Chaque fois, lié avec une question piège, on voulait piéger Jésus et hop, il amène en fait un enseignement fondamental. Alors avant de nous lancer dans l'enseignement fondamental de Jésus, nous allons faire connaissance des Sadducéens et nous appellerons ce premier point la théologie libérale. Et déjà dans ce point, nous verrons des éléments de l'enseignement de Jésus, de ce que nous allons vivre. Ensuite, nous parlerons de deux sujets qu'ils ne comprennent pas selon Jésus. Ils ne comprennent pas les Écritures et la puissance de Dieu. Ce sera notre deuxième point. Et nous terminerons par un troisième point qui est intitulé « Le Dieu des vivants et l'état des ressuscités ». Voilà, nous allons donc entrer dans notre premier point, la théologie libérale. Dans ce point, nous chercherons à comprendre qui sont les Sadducéens religieux pour qu'ils viennent faire une rencontre avec Jésus et en fait, que comprendre pour nous aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et à les avoir ouvertes dans Marc 12. Nous allons relire les versets 18 à 23, qui sont en fait les éléments où ils viennent rencontrer Jésus. Comme ça, on apprend à les connaître. Donc Marc 12, 18 à 23. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance de son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se mariait et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Il en fut du même du troisième et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Dès que les Sadducéens arrivent vers Jésus, Marc donne une indication très claire. Vous avez vu au verset 18? Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ceux qui ne croient pas à la résurrection viennent poser une question qui concerne la résurrection. En fait, leur but n'est pas de comprendre ce qui se passe une fois ressuscité. Ce n'est pas leur but. Leur but n'est pas de comprendre ce qui se passe une fois ressuscité, mais de ridiculiser ceux qui croient à la résurrection. Voilà le but des Sadducéens ici. Et donc ridiculiser Jésus-Christ. J'aimerais vous donner quelques caractéristiques de ces Sadducéens pour qu'on apprenne un peu mieux les connaître. Je vous donne 7 éléments. Un premier, c'est qu'ils ne reconnaissent que l'autorité du Pentateuque, de Genèse à Deutéronome. Pour eux, il n'y a qu'une autorité là. Et encore, on verra que cette autorité est limitée. Ils écartent la loi orale, les traditions et les règles scribales des pharisiens. Ils se moquent d'ailleurs souvent des pharisiens. Je pense que cette question qu'ils ont posée à Jésus, ils l'avaient déjà posée aussi aux pharisiens. Ils ne croient pas en la résurrection des morts. On le voit ici. Si vous allez plus loin dans le Nouveau Testament, vous verrez que l'apôtre Paul, lorsqu'il est jugé face aux pharisiens et aux sadducéens, eh bien, il parle qu'il est jugé à cause de la résurrection des morts. Et puis voilà qu'ils se prennent la tête et puis lui, il est tranquille. Quatrièmement, ils ne croient pas à l'existence des anges et des esprits. Donc ça, on le voit aussi dans Actes 23:8. Ils sont connus pour leur rejet du surnaturel. Sixième élément, selon eux, la providence divine n'entre pas dans tous les détails de la vie humaine. En fait, l'homme ne dépend que de lui-même. Si ça se passe bien dans sa vie, c'est qu'il a été bon, il a bien fait les choses. Si ça se passe mal, ben c'est sa faute, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Et septièmement, ce sont les Sadducéens qui dirigent le temple. Ils sont souvent d'ailleurs appelés, dans nos Bibles, on les voit comme les principaux sacrificateurs. Le souverain sacrificateur et ses proches faisaient partie des Sadducéens. C'était les docteurs en théologie de l'époque, si vous voulez. Et ce sont, on pourrait dire, si on fait un lien, ce sont les théologiens libéraux de leur époque qui semblent s'attacher à la Bible avec leur doctorat théologique, mais qui en sont très éloignés. Et quelle tragédie lorsque les responsables du lieu de culte pour l'Éternel nient des doctrines fondamentales telles que la résurrection. Et leur histoire abracadabrante et ridicule de 7 frères qui accomplissent leur devoir de lévira vis-à-vis de leur belle-sœur n'est pas sans rappeler le désir des théologiens libéraux actuels de ridiculiser ceux qui croient au surnaturel. Justement, regardons quelques caractéristiques des théologiens libéraux actuels. J'ai eu la curiosité de voir qu'est-ce que disait Wikipédia. Ça vaut ce que ça vaut, mais voici ce qui est écrit, intéressant. Ils mettent l'accent sur la lecture critique des textes bibliques et le souci de se libérer des contraintes du dogme et de l'institution, ainsi que des pesanteurs sociologiques qui fatalement ont tendance à figer et à rigidifier. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut entendre. Je vais expliquer ça de manière un peu plus simple en parlant de 4 domaines touchés par les libéraux. Tous n'accordent pas la même importance et à chacun de ces domaines, mais en fait, nous les retrouvons généralement dans le libéralisme. Premier élément, premier domaine, c'est la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu que des hommes ont écrite, et en grande partie, la Bible est l'avis humain, donc sujet à erreur et à changement selon le contexte. En fait, cette approche fait qu'il n'est pas possible de savoir quel texte en fait, vient de Dieu et lesquels viennent des hommes. Parce qu'ils vont jusqu'à dire que même lorsqu'il est écrit « oracle de l'Éternel » ou « ainsi parle l'Éternel », les Hébreux disent que c'est un homme qui a écrit cela pour accentuer son autorité. Mais nous ne sommes pas libéraux. Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Pas qu'elle la contient. Elle est la parole de Dieu. Pleinement inspirée, qui détient pleine autorité. Nous n'avons pas à faire le tri pour savoir qu'est-ce qui vient de Dieu ou ce qui vient des hommes. Tout a autorité dans la Bible, même si Dieu a utilisé des hommes avec leur style, leur expérience et leur langage. C'est un premier domaine. Un deuxième domaine touché, c'est tout ce qui est surnaturel, qui n'est pas explicable avec la raison, est vu comme suspect. Tout ce qui est surnaturel, qui n'est pas explicable avec la raison, est vu comme suspect, ou une imagination pour expliquer un sujet, ou carrément un mensonge. Ainsi, les doctrines chrétiennes historiques comme la Trinité, la création par la parole de Dieu, les plaies d'Égypte et la sortie du peuple à travers la mer Rouge, la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, la naissance virginale, les miracles de Jésus, la résurrection sont niées. Mais alors, que reste-t-il de la puissance de l'Évangile? Je dirais rien. Car il faut un acte surnaturel pour transformer un cœur. Nous ne sommes pas libéraux. Nous croyons que Dieu peut faire ce qu'il veut et qu'il peut faire des choses surnaturelles. Nous croyons que Dieu peut faire ce qu'il veut et qu'il peut faire des choses surnaturelles. Des choses que nous ne pouvons pas expliquer avec notre raison. Même si très souvent, il utilise les moyens ordinaires pour accomplir son dessein. Troisième domaine qui est touché. Tout ce qui n'est pas directement lié à une conséquence d'une action de l'homme est vu comme farfelu. Tout ce qui n'est pas directement lié à une conséquence d'une action de l'homme est vu comme farfelu ou carrément dangereux. Ainsi, la doctrine chrétienne, par exemple, de l'expiation, où l'homme ne peut rien faire pour effacer son péché, mais est complètement dépendant de l'œuvre d'un autre, est raillée et méprisée. Nous ne sommes pas libéraux. Nous croyons que Jésus-Christ a pris notre place pour payer nos fautes. Nous croyons que Jésus-Christ a pris notre place pour payer nos fautes, nous qui ne pouvons absolument rien faire pour effacer nos péchés. Et quatrième domaine, tout ce qui va à l'encontre de la pensée actuelle de la société, donc de la Bible, est vu comme louche. Tout ce qui va à l'encontre de la pensée actuelle de la société est vu comme louche, comme douteux ou inauthentique ou complètement décontextualisé. Voilà ce qu'on va nous dire. Ainsi, tout ce qui concerne les rôles, la morale, la façon de se comporter, n'est pas soumis à ce que dit la Bible. Mais la Bible est plutôt adaptée à ce que pense la société actuelle. Voilà pourquoi des personnes pratiquant l'homosexualité peuvent se marier et même être pasteurs. Nous ne sommes pas libéraux. Nous croyons que la Bible est toujours actuelle. Nous croyons que la Bible est toujours actuelle. En parlant, par exemple, de la sexualité uniquement vécue avec respect, don de soi et épanouissement dans le cadre d'un mariage d'un homme et d'une femme, sans parler des rôles, etc. Les Sadducéens étaient ce que les libéraux modernes sont, matérialistes, orgueilleux, se moquant de ceux qui ne raisonnaient pas comme eux. Il se moquait bien souvent des pharisiens et la question posée à Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait sûrement déjà été posée aux pharisiens. Ils les avaient embarrassés. Comment Jésus va-t-il répondre à ces docteurs qui se croyaient au-dessus des autres, qui avaient les commandes du temple et qui avaient la richesse qui leur permettait en fait de faire ce qu'ils voulaient? En plus, ils aimaient argumenter et un des éléments favoris, c'était de contredire les maîtres. Eh bien, Jésus leur donne deux raisons qui prouvent qu'ils sont dans l'erreur. C'est ce que nous voyons dans notre deuxième point. Comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Un seul verset, verset 24 du chapitre 12. Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les deux erreurs sont, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, pourquoi Jésus dit-il qu'ils ne comprennent pas les Écritures? Eh bien, les Sadducéens ne cherchent pas à se laisser transformer par l'Écriture. Ils ne font que l'utiliser pour en fait démontrer leur logique, leur capacité de raisonnement, leur compétence à trouver des questions insolubles à leurs yeux. Que Dieu nous garde de tomber dans le même piège. Toutes sortes de possibilités d'y tomber. Par exemple, on pourrait le faire avec les doctrines de la grâce. Et certains disent, par exemple, que si le salut est un don de Dieu, que les hommes n'y peuvent rien, comme cela est dit dans Éphésiens 2, 8 à 9, alors il est inutile d'évangéliser. L'homme n'y peut rien. Mais ceux qui disent cela oublient, par exemple, je cite que 1, Matthieu 28, 20, et tant d'autres passages où il est clairement dit que nous devons annoncer la bonne nouvelle du salut. Comme les Sadducéens qui utilisent le texte de Deutéronome 25 pour en faire une question à leur sauce et se moquer de la résurrection. Ce qu'ils font, ils prennent Deutéronome 25, on l'a lu ensemble avant, et ils en font une question à leur sauce pour se moquer de la résurrection, en oubliant que Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob en Exode 3. Gardez un petit doigt dans Marc 12 et venez avec moi dans Exode 3. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, donc c'est très très au début, si jamais. Et puis on va lire les versets 4 à 6, comme ça on a en tête exactement de quoi Jésus va parler. Donc Exode 3, 4 à 6. Donc là, il y a Moïse qui est présent. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et lui dit, « Moïse !» Moïse lui répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. On est au temps de Moïse. Vous vous rappelez, on a toujours ces dates en tête de l'Ancien Testament. Je vous parle souvent de ces quatre dates, comme ça on sait où on en est. Hein. Quand je vous dis moins 2000, c'est Abraham, moins 1500, c'est Moïse, moins 500... Moins 2000, c'est Abraham, moins 1500, c'est Moïse, moins 1000, c'est David, et moins 500, c'est Zorobabel, ou donc l'exil. Donc là, on est au temps de Moïse. Abraham, c'était quand? Avant. 500 ans, enfin, environ, hein, c'est pour nous situer. 500 ans avant. Donc, Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis longtemps. Et si, comme le disaient les Sadducéens, ils n'existaient plus, parce que pour eux, une fois qu'on est mort, c'est fini, on n'existe plus. Il n'y a plus rien. S'ils n'existent plus, eh bien, l'Éternel serait le Dieu d'être inexistant, puisqu'ils auraient complètement disparu selon eux. Dieu devrait dire, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, les Sadducéens ne comprennent rien à l'Écriture, même les cinq premiers livres de la Bible qu'ils considéraient comme étant la parole de Dieu. Ne faisons pas la même erreur en sortant des versets de leur contexte, en cherchant à faire dire à la Bible ce que l'on a envie sans reconnaître le mouvement global de la Bible. On a des mouvements globaux dans la Bible. Et d'ailleurs, un mouvement global clair nous a été présenté dimanche passé par Roland, hein, lorsqu'il a parlé des différentes étapes, vous vous souvenez? Création, chute, rédemption, et on peut mettre encore la glorification. Nous, les créatures de Dieu, vivons après la chute. Ça, c'est notre état. Et Jésus-Christ a accompli la rédemption qui est appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est glorifié et il viendra le manifester et nous fera entrer dans cette gloire lors de son avènement. Ça, c'est un mouvement de l'histoire qu'il est important à avoir quand on lit la Bible. Hein, nous, les créatures de Dieu, vivons après la chute. Jésus-Christ a accompli la rédemption qui est appliquée à nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est glorifié et viendra manifester ses gloires, nous y ferons entrer dans cette gloire lors de son avènement, que certains appellent aussi son retour. Or, face à cette première erreur des Sadducéens qui ne comprennent pas les Écritures, eh bien, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on la comprendra et que nous cherchons ensemble à comprendre en lisant la parole dans son ensemble. Concernant la deuxième erreur soulignée par Jésus, pourquoi Jésus leur dit-il qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu? En fait, les libéraux ne croient pas en un Dieu puissant. Ils ne croient pas que Dieu est capable de faire des choses que les hommes ne peuvent ni accomplir, ni comprendre. En fait, le Dieu des libéraux est assujetti à la raison des hommes et ne peut pas agir au-delà de la limite de leur compréhension. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas croire en la résurrection. Car ils ne croient pas que Dieu peut donner la vie. Ils ne croient pas non plus à la création. Si Dieu ne peut donner la vie à un mort, il ne peut pas non plus donner la vie tout court. Les Sadducéens, qui sont les libéraux de l'époque, ont un Dieu impotent. C'est un petit dé, hein, c'est pas le Dieu du ciel, des cieux. Mais leur Dieu est un Dieu impotent. Alors les enfants, si je dis impotent, c'est quelqu'un qui peut rien faire, qui est très très limité. Voilà ce que veut dire impotent. Vous avez un nouveau mot maintenant. C'est un Dieu limité. Il a des limites. Un Dieu qui est à leurs ordres en fait. C'est eux qui décident ce qu'ils peuvent faire ou pas, puis c'est leur raison qui définit. Un Dieu à qui ils n'ont pas de compte à rendre. Les Sadducéens, qui sont les libéraux de l'époque, ont un Dieu impotent, un Dieu limité, un Dieu à leur ordre, et un Dieu à qui ils n'ont pas de compte à rendre. C'est donc normal que les libéraux de tous les temps vous diront que c'est l'homme qui a inventé Dieu, que c'est l'homme qui définit comme un Dieu. Ben oui, c'est logique, puisque c'est exactement ce qu'ils font. Mais nous ne sommes pas des libéraux. Nous croyons en un Dieu tout-puissant, capable de donner la vie à partir de rien, de créer une âme immortelle, de redonner la vie, et même de créer un nouveau cœur et un nouveau corps qui est en lien avec un ancien corps, comme la plante est en lien avec la semence. Très différent et pourtant de la même sorte. Alors là, j'ai essayé d'inventer une illustration, on verra si c'est utile, mais vous essayerez de comprendre. Les Sadducéens sont comme des hommes d'un petit village de 50 habitants qui reçoivent une lettre dans une langue qu'ils ne connaissent pas, d'un roi qui a 1 million de soldats à son service et qui annonce qu'il viendra une fois. Le contexte, ça va ? Petit village, ils reçoivent une lettre, tout ça. Alors les soi-disant sages du village ne vont pas chercher un traducteur, mais regardent les formes des lettres utilisées dans le message du grand roi, et ils arrivent à déchiffrer le terme « million ». Un jour, un messager du roi arrive et leur annonce que le roi, qui avait parlé de sa venue dans sa lettre, arrive avec son million de soldats. C'est alors qu'un soi-disant sage, qui ne croit pas en l'utilité des soldats, demande « Mais combien de personnes pensez-vous que l'on peut mettre dans notre village, sachant que nous avons 20 maisons et 10 places, dans 10 places chacune ?» En fait, nous ne voulons pas de votre million de soldats. Et le messager répond que le soi-disant sage n'a rien compris à la lettre reçue, qui annonçait une attaque d'une puissante et terrible armée ennemie qui venait détruire le village, et ce roi venait protéger ce village avec son million de soldats. En fait, le soi-disant sage de ce village n'avait aucune idée qu'un ennemi voulait les détruire. Il était uniquement préoccupé par leur petit village et pensait être le centre du monde, voire même de l'univers, et il utilisait la lettre reçue du roi pour paraître sage aux yeux de tous les villageois, mais étant ridicule aux yeux de ceux qui savaient lire. Ne cherchons pas à lire la Bible en nous mettant au centre de nos préoccupations, en y plaquant notre façon de voir les choses, en cherchant des justifications à notre comportement, ou pour nous moquer de ce que nous ne comprenons pas. Cherchons à avoir le traducteur, celui qui pourra vraiment nous permettre de comprendre, celui qui est en fait celui qui a inspiré cette parole, le Saint-Esprit qui éclaire nos cœurs. Et ainsi, Dieu sera le centre de nos préoccupations lorsque nous lirons sa parole. Lisons la Bible en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer. Restons humbles face à ce que Dieu nous enseigne. Recevons avec respect et reconnaissance les paroles qui nous indiquent que Jésus-Christ, vrai Dieu, est devenu homme pour prendre notre place et pour nous sauver d'une mort éternelle. Laissons la Bible nous transformer, sachant que nous sommes bien plus petits que Dieu, qui n'est pas limité. Il n'a pas les 3 dimensions comme nous, notre limitation dans l'espace-temps. Bien sûr qu'il comprend tout ça, mais bien plus. Je ne peux pas vous parler des dimensions de Dieu, on n'aurait pas de chiffres pour le dire. Mais quel réconfort de savoir que Dieu est assez puissant pour devenir un homme. Ça m'a souvent marqué. Comment c'est possible que Dieu peut... Mais il a la toute puissance, il est assez puissant pour devenir un homme et payer à notre place pour nous libérer de nos fautes. Que Dieu est assez puissant pour donner la vie et la maintenir. Que Dieu est assez grand pour venir nous chercher là où personne ne peut nous atteindre. Si vous croyez que vous êtes dans une situation où personne ne peut rien pour vous, et ça peut être souvent le cas pour des personnes qui viennent à l'église régulièrement, au fond de leur cœur. Bon, non, ce n'est pas qu'ils sont quelque part physiquement où on ne peut pas les atteindre. C'est plutôt dans leur cœur, on se dit non, là, c'est plus possible. Sachez que Dieu est assez grand pour venir vous chercher là où personne ne peut vous atteindre. Que Dieu est toujours plus grand que nos pires péchés et qu'il peut, peut pardonner, même si c'est vrai, il nous corrige pour nous éloigner de ses péchés. Quel réconfort de savoir que Dieu est assez puissant pour devenir un homme et payer à notre place pour nous libérer de nos fautes. Que Dieu est assez puissant pour donner la vie et la maintenir. Que Dieu est assez grand pour venir nous chercher là où personne ne peut nous atteindre. Que Dieu est toujours plus grand que le pire de nos péchés qu'il peut pardonner, même s'il nous corrige pour nous en éloigner. Pour comprendre les Écritures, il faut les étudier. Pour croire en la puissance de Dieu, il faut ouvrir les yeux, demander à Dieu de le voir. Dieu est puissant. Que Dieu nous donne jamais ce reproche. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oh non. Que le Seigneur nous dise, mais que j'aime que tu étudies l'Écriture. Oui, tu dois encore apprendre bien des choses, mais oui, ça c'est clair. Mais tu l'aimes, tu veux la comprendre. Et tu crois en moi, tu sais que je peux tout faire. Et je le fais, même dans ta vie, en venant te chercher là où personne ne pourrait le faire. Et enfin, Jésus se penche ici dans ce texte sur la question des Sadducéens elle-même, qui est la résurrection des morts. Et il nous donne le fondement pour comprendre notre état de résurrection que Paul développera par exemple dans 1 Corinthiens 15. On n'a vu qu'une partie du chapitre, vous pourrez lire tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Mais j'aimerais relire avec vous les versets 25 à 27 de Marc 12 pour entrer dans ce dernier point. Marc 12, 25 à 27. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. C'est clair qu'il y a résurrection. Là, Jésus ne va pas maintenant me donner une grande argumentation. Il leur donne un texte qu'on a vu tout à l'heure dans l'Exode qui dit clairement, si Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ne sont pas inexistants. Jésus pose le fondement de la compréhension de la résurrection, ici aussi, de l'état de résurrection dans lequel on vivra. Il n'y aura plus de mariage, plus d'enfantement, et les conjoints n'auront plus de relations privilégiées entre eux, parce que notre relation privilégiée à tous sera celle avec notre époux, Jésus-Christ, le chef de l'Église, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour le monde. Et là, ça m'a fait réfléchir, puis c'est vrai qu'un élément qui m'a marqué, c'est que un des éléments de la vie du mariage, c'est cette union intime, hein, cette union sexuelle où il y a une jouissance. Hein. Et là, la jouissance sexuelle qui est un des moyens les plus forts pour vivre un plaisir intense, profond et satisfaisant, dans le cadre donné par Dieu ici-bas, sera dépassée, largement dépassée, après la résurrection, par le plaisir et la jouissance permanente de vivre dans la présence de l'époux. C'est juste extraordinaire. Vous savez, le paradis, ce n'est pas une orgie sexuelle comme l'islam le présente, mais un lieu de bonheur parfait, où le célibataire, les femmes, puisque dans l'islam, les femmes, je ne sais pas comment ils vivent le paradis, hein, les femmes et les personnes malheureuses dans leur mariage ici-bas vivront une satisfaction, une joie plus intense que ce qu'ils auraient pu imaginer goûter sur terre, même s'ils n'ont jamais goûté à ça. Ça sera beaucoup mieux, extraordinaire. Et il n'y aura plus de mort, donc plus besoin de naissance. Le cadre donné par Dieu pour la procréation n'aura plus lieu d'être non plus. Voilà ce que Jésus pose comme fondement clair par rapport à la résurrection. L'apôtre Paul ne fait que développer ensuite dans 1 Corinthiens 15. Et 1 Corinthiens 15 nous explique bien que tout le monde va ressusciter. Dieu donnera un nouveau corps, comme il a créé le monde par sa parole. L'état du corps lors de la mort, par certains vont dire, ouais, mais bon, suivant l'état du corps quand il est mort, comment il va faire ? Comment il a fait pour la création ? Dieu dit, et cela fut. C'est la même puissance pour la résurrection. Dieu dit, et cela fut. Et pour l'instant, il n'y a que Jésus qui a reçu ce nouveau corps lors de la résurrection. Il nous précède, il est le prémisse en fait de ce que nous serons tous. Celui qui ne croit pas à la vie après la mort est en fait comme une chenille qui ne croit pas à la vie après la chrysalide. Parce qu'il ne l'a jamais vue. Vous savez, les chenilles en fait, ils semblent, hein. Je ne suis pas une chenille, mais bon, j'ai un peu cherché les informations. Je ne crois pas en tout cas. Il est d'accord. Il semble que les chenilles, en fait, ils ne voient pas d'image. Ils ne voient quoi, que des variations de lumière. Donc en fait, comme ils n'ont jamais vu de papillon, ils n'y croient pas. Ben, c'est un petit peu ceux qui ne croient pas à la vie après la mort. On ne voit pas ce qu'on deviendra. Ça ne signifie pas que cela n'est pas vrai ou n'existe pas. Et ce que nous vivons maintenant aura un impact dans le futur éternel. Rappelons-nous que celui qui ne connaît pas Dieu est mort spirituellement. Éphésiens 2 le souligne. Alors comment savoir si vous êtes mort spirituellement ? Je donne quelques idées. Vous n'avez pas d'intérêt pour la parole de Dieu. Peut-être vous l'avez juste devant les autres pour bien paraître, mais personne, au fond de votre cœur, ça ne vous intéresse pas. Vous ne reconnaissez pas votre péché. Vous ne combattez pas le péché. Vous savez, il y a des gens qui combattent le péché, et puis je dis, mais c'est terrible, je combats tellement contre le péché, je ne dois pas être chrétien. Mais je dis, c'est plutôt une preuve que tu l'es. Tu ne vas pas combattre le péché quand tu es mort. Vous n'aimez pas la gloire de Dieu. Celui qui est mort ne cherche pas la gloire de Dieu. Vous ne cherchez pas la compagnie des croyants. Vous pouvez pratiquer le mal sans que cela vous touche. Et vous ne mettez jamais les intérêts de Dieu avant les vôtres. C'est tous des éléments qui montrent que l'on est mort spirituellement. Il est écrit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cela signifie que Dieu n'est pas du côté de celui qui est mort spirituellement. Et ne pas être du côté de Dieu, c'est être du côté de ceux qui sont jugés à cause de leur acte mauvais. Mais j'aimerais dire la bonne nouvelle, c'est que si nous ne sommes pas du côté de Dieu lorsque nous sommes morts, nous pouvons appeler à Dieu et dire « Seigneur, réveille-moi !» C'est bizarre, c'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que vous êtes mort, puis vous pouvez appeler Dieu. Mais c'est ce que la Bible dit, désolé. On peut demander à Dieu d'agir et par son esprit, il peut nous transformer, nous donner la vie et nous pouvons entrer dans ce chemin de la repentance. Et rappelons aussi que celui qui se repent de ses fautes, qui croit que Jésus-Christ, son roi, est mort pour lui, est vivant spirituellement. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors on arrive à la conclusion. Les enfants, ils sont contents qu'on arrive à la conclusion. Ça dépend combien de temps je fais à la conclusion. Non, c'est assez court. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte de Marc 12, 18 à 27, avec les Sadducéens qui viennent poser la question à Jésus? Qu'est-ce qu'on va retenir? Alors, je pourrais venir avec le micro, puis vous demander un petit peu, qu'est-ce que vous allez retenir? Mais je vais vous proposer quatre éléments. Premier élément, éloignons-nous du libéralisme qui ne libère que notre orgueil et nous enferme dans un raisonnement qui nous éloigne du Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé dans sa parole. Oui, c'est condensé, désolé. Je vous le redis. Donc, éloignons-nous du libéralisme qui ne libère que notre orgueil et nous enferme dans un raisonnement qui nous éloigne du Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé dans sa parole. Deuxièmement, je nous encourage à nous nourrir de toute la parole de Dieu. Pas seulement en lisant les textes, pas juste les lire, mais en les méditant et en cherchant à mettre en pratique ce que nous comprenons. C'est ainsi que nous serons dans la compréhension de la parole. Troisièmement, ouvrons les yeux. Nos yeux physiques, mais aussi les yeux de notre cœur, et demandons à Dieu d'être attentif à sa puissance, qu'il manifeste dans nos vies et autour de nous, que nous sachions reconnaître, en fait, ce que rien ni personne ne pourrait faire en dehors de lui. Et quand Dieu nous donne d'ouvrir les yeux, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent, que c'est que lui qui peut faire. Et dernièrement, si nous sommes vivants spirituellement, réjouissons-nous de ce qu'à la résurrection de nos corps, nous allons vivre comme les anges dans le ciel, dans un contentement parfait, heureux, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, rempli d'un bonheur intense, complètement comblé par la relation avec Jésus-Christ. C'est ça qui nous attend dans sa perfection, et nous pouvons déjà maintenant, dans des moments particuliers que Dieu permet, vivre comme des petits moments qui sont déjà comme des petits amuse-bouches de ce qui va arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi je vous encourage parfois de vous arrêter, de prendre un temps avec le Seigneur, de simplement se dire, ben voilà, je vais aller devant le Seigneur, vivre ce temps, le prier de me guider. Et vous allez vivre ces temps, je suis convaincu. Il y a des temps extrêmement forts, où même nos sentiments sont pris pour se dire, waouh, ça je vais encore le vivre. Et vous vous rendez compte dans votre vie que c'est lorsque vous péchez que ça on le perd. On ne perd pas Dieu, on ne perd pas l'Esprit. Mon Père, cette relation intime, proche. Et vous savez quoi? On peut se repentir et le retrouver. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je suis chaque fois impressionné de voir que des gens veulent venir te piéger. Ils veulent que soit le César et ses Romains viennent t'enlever, soit les gens se soulèvent contre toi. Soit que tu sois tellement ridiculisé que les gens n'écoutent plus tes enseignements. Ou que tu ne sois pas capable de répondre, et pourtant, nous voyons que tu as donné à ton Fils Jésus-Christ toutes les réponses. Et des réponses qui sont juste extraordinaires, des réponses qui sont précises, des réponses qui ne vont pas flatter les gens, mais qui ne vont pas non plus chercher à leur faire du mal. Il a appelé ces Sadducéens à chercher à comprendre la parole. Il a appelé ces Sadducéens à voir la puissance de Dieu, qui peut tout faire, qui est capable de créer, qui est capable de nous ressusciter, qui est capable de nous transformer, qui est capable de nous guider, qui est capable de venir nous chercher là où nous sommes, qui est capable de nous donner la paix dans des situations où c'est quasiment impossible de l'avoir. C'est un Dieu qui peut nous encourager dans les moments difficiles, les moments de souffrance. Un Dieu qui peut nous donner cette grâce de vivre une relation intense alors que nous nous sentons seuls, solitaires. Tu es ce Dieu puissant. Tu es ce Dieu glorieux. Et j'aimerais te prier, Seigneur, de bénir particulièrement ceux qui passent par des temps de souffrance et de difficulté. Qu'ils puissent être encouragés par toi. J'aimerais te prier de protéger ceux qui sont tentés de rejeter tout ce qu'ils ont entendu de toi. Transforme-les, Seigneur, afin que cette tentation de rejet soit transformée par un désir ardent de mieux connaître qui tu es. Toi, ce Dieu de gloire qui nous prépare une place, toi, ce Dieu qui nous donnera un nouveau corps parfait, toi, ce Dieu qui nous fera entrer dans une union, un mariage extraordinaire qui comblera tout ce que nous pourrions attendre. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.